Édouard Jordan, pour ce premier Radio Barque sur Grand Sud FM de 2023, nous continuons votre analyse après, justement, le ressenti sur ce fameux congrès qui vient de se dérouler. Et vous disiez juste avant la pause que dans ce département, enfin, si la situation économique est si mauvaise dans ce département, si on est le, je crois, cinquième département plus pauvre de France, enfin bon, c'est l'expression utilisée, c'est la faute au Parti socialiste. Alors comment verriez-vous une gestion de l'économie de ce département pour que ça change ?
Je crois que on a besoin de se donner déjà l'envie de faire venir l'économie. Nous nous situons au cœur de l'Occitanie. Et comme je vous le disais juste avant la pause, nous sommes dans un triangle exceptionnel. Montpellier d'un côté, Toulouse de l'autre et Barcelone. Utilisons toutes ces dynamiques. Nous sommes également sur ce couloir entre Toulouse et la mer. Et je fais référence, bien sûr, au travail qui a été réalisé par Cœur d'Occitanie, l'association d'entrepreneurs portée au niveau régional, par l'ancien président de la CCI, Jean Kézergue. Profitons de toutes ces opportunités, de notre centralité au niveau de la région, de notre proximité avec l'Espagne et de la mer, pour favoriser l'implantation d'entreprises. Nous avons la chance d'avoir un foncier accessible, tant sur le plan de l'urbanisme, mais également en tarif. Donc, de cette manière-là, nous avons tous les moyens pour arriver à créer de l'économie. Alors, je crois que cette dynamique, elle doit dépasser la question des clivages politiques. C'est l'ensemble des responsables politiques et des élus qui vraiment doivent s'engager dans ce sens-là pour favoriser le développement de l'Aude.
Mais un certain nombre de zones d'activité, ou zones industrielles, zones d'activité, comme on dit maintenant, existent. Bon, par exemple, on sait que Lézignan, par sa position centrale, a des zones d'activité qui s'agrandissent. Sur Carcassonne, il y en a également, il y en a une à Trèbes, Béragne, il y en a une qui se crée Rocadeste avec un centre attractif commercial sur Carcassonne. Il y a quand même un certain nombre de choses.
Dites-vous. Pour moi, quand je parle de développement économique, je ne parle pas de développer des zones commerciales. Je parle d'attirer des TPE, des PME.
Mais sur des zones commerciales.
Sur des zones, on va dire, dédiées.
Oui, des zones dédiées, des zones d'activité.
Je pense par exemple à la démarche entreprise par Gérard Lara à Carcassonne pour créer une zone logistique. Ça, c'est du développement économique où nous créons de l'emploi, où nous travaillons dans ce sens-là pour attirer des entreprises qui vont permettre de s'implanter et de créer de la richesse sur le territoire.
Oui. Mais au démarrage, il faut bien des zones d'activité qui existent.
Tout à fait. Bon. Mais soyons clairs, ouvrir des terrains à la construction pour du développement économique ne fait pas une politique de développement économique. Attirer des entreprises, créer de la valeur ajoutée, c'est tout un écosystème. C'est-à-dire qu'il faut avoir en parallèle une offre de main-d'œuvre qualifiée, adaptée. Il faut avoir choisi, se dire, on va s'engager vers telle filière. Je crois que l'Aude, grâce à son agriculture, grâce au tourisme et à son environnement, a trois secteurs prioritaires pour s'engager dans le développement économique et qui, je crois, sont dans une période de transition économique et énergétique prioritaire. On parle, par exemple, du photovoltaïque. Je crois qu'il faut y aller pleinement. De même, je crois que sur l'éolien, alors même s'il faut y aller avec des garde-fous, sans doute, pour pas qu'il
y ait un développement anarchique. Très, très controversé, parfois.
Mais il faut pas
exemple,
se fermer les portes.
Exemple, la Frontiers-Cabardès.
Par exemple. Mais il ne faut pas se fermer les portes. On a la chance d'avoir un département qui, à ce jour, est un gisement inexploité en matière de développement économique.
Voilà, mais seulement l'exploiter. Alors, la ressource, enfin, disons, la compétence économique dans le système français actuel aujourd'hui,
c'est
la région. Bon, alors, la région, est-ce que vous pensez qu'elle fait ce qu'il faut, entre guillemets, pour aller dans votre sens ?
Je crois que pour l'heure, la région, et je suis objectif, je crois, elle essaye d'engager un certain nombre de mesures.
Bon, Port-la-Nouvelle, par exemple.
Port-la-Nouvelle.
Elle est partie prenante, largement.
Elle est partie prenante. Et donc je salue ce projet. Je crois qu'il faut aussi saluer le travail du maire de La Nouvelle, hein, Henri Martin.
Bien sûr. Oui.
Et de la CCI de M. Kézergue, en son temps aujourd'hui de M. Madol, qui sont sur ce projet. Ça, c'est un premier point. Mais après, je crois qu'aussi, la région, à l'heure actuelle, se concentre beaucoup sur Toulouse et Montpellier.
Ah, c'est-à-dire qu'elle refait un peu le modèle français, Paris et le désert.
Et personnellement, je crois
c'est ce que vous ressentez.
Je vois déjà professionnellement, la Haute-Vallée par exemple, on ne voit pas trop encore le grand développement économique prôné par Madame Delga. Alors qu'on sait pertinemment qu'elle fait des efforts sur Toulouse et toute l'aire urbaine toulousaine, et de même sur Montpellier. Moi, ce que je ne voudrais pas, c'est que finalement, la région se limite à Toulouse et Montpellier.
Oui, refasse une centralisation à la parisienne telle que la France en a souffert et en souffre probablement encore.
Tout à fait. Et au contraire, nous avons dans notre département des villes comme Castelnaudary, comme Lézignan, comme Limoux, comme Quillan, qui ont des capacités, des possibilités, il faut les exploiter. Et je crois que le rôle de la région, c'est d'aller dans ce sens-là. Et je crois que nous, responsables politiques et élus, eh bien, c'est de prendre des décisions politiques et de définir des secteurs vers lesquels nous souhaiterions aller, comme en son temps Toulouse a su le faire avec l'aéronautique.
Alors justement, restons précisément sur ce point. Alors vous dites, Carole Delga, certes elle prend des décisions, elle, des initiatives, mais ça se centralise sur Toulouse. Donc, pour décentraliser et venir davantage sur l'Aude, il faut des élus qui s'impliquent, des conseillers régionaux par exemple.
Tout à fait.
Or, il y a un problème qui est né récemment dans votre parti même au niveau des conseillers régionaux, c'est que les élus régionaux républicains, certains d'entre eux se sont un petit peu rebellés contre le président du groupe, M. Pradier, et en devenant ce qu'on appelle plus ou moins dans notre parti des frondeurs, c'est-à-dire en se désolidarisant, en disant « Non, on ne veut pas, suivre ». Alors je cite par exemple une déclaration de ce groupe dont fait partie M. Pi, maire de Leucate, et votre prédécesseur au sein du parti. On ne veut pas d'une opposition de... Alors nous voulons une opposition constructive, de dialogue et non éruptive dans la majorité régionale. Donc, c'est-à-dire que, si je puis dire, le groupe des Républicains à la région, à Toulouse aujourd'hui, manque de cohésion et semble se disputer plutôt entre eux.
Alors, vous savez, dans toute famille
c'est
politique...
C'est contradictoire, ça.
Dans toute famille politique...
Oui, il y a des bisbilles.
On peut avoir des différences d'approche. Certains peuvent avoir des intérêts différents ou des attentes différentes. Je ne rentrerai pas dans cette querelle, on va dire, du groupe LR à la région. La seule chose que je dirais, et j'en dirais deux. Premièrement, pour moi, quand on est dans l'opposition, on s'oppose. On est là pour porter une opposition, pour porter ses idées.
Oui, mais il y a diverses manières de les porter.
Et il y a diverses manières. Mais je crois qu'il faut les dire de manière claire et sans ambiguïté. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, concernant ces différences, je pense que c'était essentiellement lié à des différences d'approche territoriale. Quand vous regardez le groupe d'élus,
ça serait
Languedoc.
Aurélien Pradier, l'Ouest contre l'Est.
Je ne dirais pas Aurélien Pradier spécialement. Je dirais plutôt que c'est une différence de culture politique entre l'ancienne région et les élus de l'ancienne région
Languedoc-Roussillon
et Languedoc-Roussillon. Après, voilà, je crois qu'il ne faut pas non plus s'arrêter à ce genre de bisbilles. Toute famille politique connaît ce genre de bisbilles. Je regrette cette partition, car je crois qu'unis, on est toujours plus fort.
Oui. Alors, cela dit, à propos de M. Aurélien Pradier, il fait partie des trois qui étaient candidats à la présidence. Donc, c'est quelqu'un... Est-ce qu'on peut dire que c'est une étoile montante, ce jeune député du Lot, au sein des Républicains ?
Bien entendu qu'Aurélien Pradier est une étoile montante. Il est jeune, il a un parcours...
Il semble ambitieux.
Et il est ambitieux, il a un parcours qui lui fait honneur, hein, puisqu'il a été élu conseiller général à 22 ans. Il a ensuite remporté la mairie de sa commune.
Député.
Et député en 2017.
Dans un territoire pas très facile.
Totalement hostile.
Oui.
Il faut le dire, sans ambages. Totalement hostile, très ancré à gauche. Et donc, qui a réussi à apporter un petit peu de couleur bleue, je dirais, dans son département. Donc oui, c'est une étoile montante. Il a une approche qui diffère un petit peu de celle d'Éric Ciotti. Il est plus sur une droite sociale. Mais
c'est une autre génération aussi.
Et c'est une autre génération.
Et est-ce qu'il n'y a pas justement dans ces bisbilles auxquelles on se référait à l'instant un problème générationnel?
Peut-être.
C'est-à-dire, bon, pas seulement une conception territoriale, mais aussi un autre ressenti, une autre façon de voir l'avenir et de faire de la politique.
Je ne crois pas que ça soit le sujet essentiel. Je pense que c'est surtout une différence d'approche territoriale entre, finalement, des élus de l'Ouest et des élus de l'Est, et donc, en particulier, des élus de la côte.
De la côte. Bon. Alors, revenons maintenant.
Mais je ne crois pas, par contre, qu'il y ait de tension au sens de fond politique.
Oui, d'accord. Bon. En tout cas, il fallait le souligner parce que ça surprend un peu des frondeurs chez les Républicains. C'est pas dans la culture habituelle.
Je vous rejoins.
Alors revenons au niveau national. Donc maintenant, les Républicains ont leur président. La machine est en place. Maintenant, Monsieur Macron est élu président pour 5 ans. Vous le savez. Il est obligé de composer avec diverses composantes politiciennes, justement. Quelle doit être, selon vous, la position des Républicains, par exemple, vis-à-vis des réformes de la retraite, des retraites ou autres?
Alors, vous vous rappelez, il y a quelques mois, j'étais à ce micro.
C'est pour ça que
Et vous m'aviez interrogé sur ma position par rapport à La République en marche.
Voilà.
Et vos auditeurs s'en rappelleront peut-être, j'avais dit très clairement que personnellement, je refusais toute proximité ou tout pacte, de loin ou de près, avec le macronisme. Eh bien, je n'ai pas changé d'avis. Pour moi, et c'est une opinion personnelle, hein, les Républicains n'ont pas à être la béquille du gouvernement. Et nous devons être l'opposition et incarner cette opposition dans l'intérêt de la France et de nos compatriotes.
Et pourtant, par exemple, les Républicains, c'est aussi le Sénat qui fait partie du Parlement. On a un Sénat où les Républicains sont bien implantés, que je sache.
Majoritaire, effectivement.
Bon. Et donc, qui joue un rôle dans l'élaboration des lois. On n'a pas l'impression parfois que ce Sénat est systématiquement dans l'opposition contre le gouvernement actuel.
Vous avez raison. Effectivement, nos sénateurs...
Le président, par exemple, ne cache pas certaines...
Enfin, voilà. Vous le dites, le président Larcher porte une position qui est un peu différente de la mienne, peut-être plus ouverte à des ententes, si je puis dire, mais sans aller si loin. Moi, personnellement, et je vous redis ce que j'ai dit il y a plusieurs mois et je viens de vous redire, être dans l'opposition... C'est s'opposer.
Oui.
Et donc, pour moi, les choses sont claires. On n'est pas dans la majorité présidentielle. On est dans l'opposition au président Macron et à son gouvernement. Et nous n'avons pas à être la béquille de la majorité présidentielle.
On marque, Édouard Jordan, une deuxième pause. Et on reviendra peut-être un petit peu aussi sur ce sujet qui mérite approfondissement.
Tout à fait.